16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui se sont auto-censurés. Après Molière et Julien Green, Mathieu, vous nous brossez le portrait 99% vrai d'un philosophe mondialement connu par ses best-sellers et qui lui aussi a cédé aux sirènes de l'auto-censure.
Oui, et lui c'est Yuval Noah Harari, incongru télescopage patronymique de Yannick Noah et Rafik Hariri, dont Stéphane me disait hors antenne.
Il faut qu'il change de nom si il veut faire de la radio.
Bah ça tombe bien Stéphane, il veut pas faire de radio, il s'en fout. Yuval Noah Harari a certes un nom chelou, mais si vous avez déjà erré dans un relais H un jour de grève SNCF, vous avez forcément sous-pesé, voire pour les plus courageux d'entre vous, feuilleté un de ces pavés, Homo Deus ou Sapiens, en vous disant
« C'est très pointu. »
Avant de le reposer et d'acheter, voici. Une fainéantise intellectuelle regrettable, car ce sont des ouvrages passionnants qui nous éclairent sur le monde tel qu'il va et l'histoire telle qu'elle est allée. La spécialité de Yuval, analyser l'histoire pour mieux prédire le futur. L'histoire commença quand les humains inventèrent les dieux et se terminera quand les humains deviendront des dieux, écrit-il. Ce qui est d'autant plus couillu qu'il est originaire d'un état religieux traditionnel où l'homme n'a pas encore pour projet officiel de devenir dieu, Israël. Mais Yuval s'en fout. Depuis toujours, il bouscule les codes. Philosophe, mais aussi historien, professeur à l'université hébraïque de Jérusalem, maître de conférences, roi de la méditation, conseiller des plus grandes de ce monde, porte-parole de la communauté LGBT, bouffeur de tofu fumé, progressiste et défenseur acharné d'un traité de paix au Proche-Orient. Il est tout ça, Yuval. Il est donc un visiteur du soir des grands dirigeants de la planète, d'Emmanuel Macron à Barack Obama, qui l'éclaire sur des sujets aussi divers que l'homme de Néandertal, les voitures sans chauffeur, Game of Thrones, le nucléaire, l'intelligence artificielle ou encore qui sait le tian de légumes, on ne sait pas. Idem pour les grands chefs d'entreprise, Yuval a également l'oreille de Bill Gates et de Mark Zuckerberg. Il est partout. Il est l'un des plus grands vendeurs de livres au XXIe siècle. Sapiens s'est écoulé à 12 millions d'exemplaires. Vous avez vendu combien, vous, Stéphane, de Secrets d'Histoire? Non, beaucoup plus que 100 000, mais pas 12 millions. Sa suite, Homo Deus, a connu un succès similaire, propulsant Yuval au rang de philosophe number one, un genre de Nietzsche soft et accessible, dont on peut découvrir la pensée dans un TER qui va à Châteauroux sans avoir un doctorat en épistémologie kantienne. Physiquement, c'est un peu comme pour son nom, on dira que Yuval Noah Hariri se situe entre Yannick Noah et Rafik Hariri.
Je mets 13 sur 20.
Voilà, un look entre l'expert comptable et le gourou, mais on s'en fout puisque c'est son cerveau qui nous intéresse. Un cerveau fascinant qui nous a livré notamment 21 leçons pour le 21e siècle, son dernier ouvrage, celui qui est au cœur de la polémique, puisque oui Stéphane, c'est celui-ci qui a été censuré avec l'accord de Yuval en Russie. Nous y reviendrons, mais d'abord, reprenons le fil de sa vie. Yuval Noah Harari, né le 24 février 76 en Israël, à Kiryat Atta. Alors oui, la chanson dit Tel Aviv, mais je l'aime bien et je n'ai pas trouvé de chanson correspondant à Kiryat Atta. Je ne connais pas ce coin-là, vous ferez avec. Bref, il naît en Israël. La presse évoque pudiquement une jeunesse turbulente entre Israël et Londres, où il était dit, il découvre sa sexualité à Tel Aviv, première ville à inaugurer la Gay Pride, sort en boîte, des cuves, étudie. Il enchaîne after, cours d'histoire, vogalib, dodo, révision, soirée trans. Bref, il est jeune, il ne pense pas à Merleau-Ponty, mais...
Shake your booty.
Seulement voilà, la jeunesse n'a qu'un temps, vous le savez. Peu à peu, Yuval, qui est un étudiant extrêmement brillant, décide que le monde de la nuit offre finalement assez peu de débouchés. Il décide alors de devenir prof d'histoire et de se mettre à la méditation. Des extas, il passe aux graines de chia et part seul en retraite plusieurs jours. C'est un prof différent de celui qu'on a tous eu en histoire et qui avait le cheveu gras et la voix lasse quand il nous disait « Bon, ouvrez vos manuels à la page 72 ». Nous allons parler de Charles Quint, le genre de type qui attendait autant que nous la sonnerie. Yuval, lui, est un showman. Avec lui, le cours se transforme en spectacle de stand-up. Ses élèves en redemandent, un peu comme nous à la fin d'un récit de Stéphane. On en veut encore, on crie
« Stéphane ! Stéphane !»
Après le stand-up, la fiction. Yuval commence à scénariser ses cours. Ses élèves lui disent qu'il est génial, qu'il devrait en faire un livre. Il dit « C'est vrai, vous me trouvez génial ?»« Oh oui, professeur !» Alors d'accord, je vais faire le livre. Voilà qui deviendra Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Le démarrage est lent, le succès n'est pas immédiat en librairie. Alors son mari, une sorte de René Angélil de l'édition, devient son manager et c'est grâce à son incroyable force de persuasion que le phénomène Harari va naître. Au début, le problème de Sapiens, c'est que les historiens ne le lisent pas, les critiques littéraires s'en foutent et les lecteurs de philosophie encore plus. Alors l'époux manager, que nous appellerons le René de Tel Aviv, commence à envoyer livre à des personnalités stratégiques. Et de personnalités stratégiques en personnalité stratégique, le bouquin finit par se retrouver entre les mains de qui ?
Lynn Renault.
Non, mieux Stéphane. Barack Obama. Barack adore le livre qui l'a profondément marqué et il n'hésite pas à le dire haut et fort. Dans une interview, il compare même la lecture de cet ouvrage à la visite des pyramides d'Égypte, soit l'un des moments les plus marquants de sa vie. Bill Gates le lit aussi. Yuval devient une marque, un guide, un businessman aussi peut-être. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? Ses conférences de 24 minutes payées $300 000. Là, on tient un joli ratio, mon salaud. Alors tiens, Stéphane se réveille en découvrant qu'un type encore mieux rentabilisé son succès que lui. 300 000
euros. Il a un mari manager, oui.
C'est ce qui vous manque. 300 000 dollars les 24 minutes.
12 000 euros la minute.
Ouais, c'est beaucoup. Évidemment, Yuval fait plus que bouffer du tofu. Il délivre une vision passionnante du futur, de l'évolution de notre espèce, des enjeux de demain, notamment le réchauffement climatique, qui est certainement le problème numéro un. On le constate tous les jours.
En plus, il n'y a plus de distributeur de gobelets. C'est là on voit que ça va mal.
Bref, Yuval est un penseur total, interdisciplinaire, car selon lui, tout est connecté. On ne peut pas réduire le réel à sa dimension purement économique, sociologique ou biologique. Il faut prendre du recul pour avoir une vue d'ensemble. Logiquement, il est aussi un dénonciateur des fake news et autres post-vérités. En quelques années, il devient un vrai repère pour nous. On écoute ce qu'il dit religieusement quand soudain, on apprend que Yuval a autorisé des changements dans l'édition russe d'un de ses best-sellers afin d'échapper à la censure. Le chapitre en question, l'invasion de la Crimée par la Russie en 2014. Je vous lis la version originale du passage, puis la version auto-censurée. Vous me direz si vous trouvez que c'est gros ou pas. Premier passage donc. Le gouvernement russe et le président Poutine en personne ont nié à plusieurs reprises qu'il s'agissait de troupes russes et les ont décrites comme des troupes d'autodéfense spontanées ayant acquis un uniforme similaire à celui des Russes dans des magasins locaux. En faisant des déclarations aussi ridicules, Poutine et ses collaborateurs savaient parfaitement qu'ils mentaient. Ça, c'est la version originale. Maintenant, l'édition russe. Même page, même paragraphe. Selon les estimations du Washington Post, le président Trump a fait plus de 6000 fausses déclarations publiques depuis son entrée en fonction. Point. À la ligne. Oh, il a enlevé carrément toute référence à Poutine. Il a mis Trump à la place en disant que les lecteurs russes n'apprécieraient plus. C'est la méthode classique, hein, défoncer le petit frère alors que c'est l'aîné qui a explosé le vase vénitien en jouant au foot dans le salon. Des changements qu'il ne fait pas qu'assumer, il les revendique en fait. Pour permettre à mes idées et à mes messages d'atteindre facilement des personnes de différents pays, au fil des ans, j'ai autorisé et même initié des adaptations de tous mes livres. Les adaptations tiennent compte de différents contextes culturels, religieux et politiques. Si je pouvais, je réécrirais mes livres à partir de zéro pour chaque pays. Mais je ne peux évidemment pas. Lorsque je fais des adaptations, mon principe directeur est d'adapter les exemples que j'utilise pour expliquer mes idées sans jamais l'échanger. Il est trop fort, ce Yuval. Dès qu'il explique, on oublie le côté censure, on est d'accord avec lui. Alors, oubliez cette petite polémique. En plus, on s'en fout. Nous, dans l'édition française, on a les vacheries sur Poutine. Non, vraiment, il n'y a pas de mal à s'auto-censurer de temps en temps. Surtout que certains ont le problème exactement inverse. Ils ne se censurent pas assez. Comme Pouls et Castello quand ils évoquent des souvenirs scabreux de leur jeunesse devant le clip Libertine.
Le clip de Libertine. J'avais 5 ans, même 6 ans.
Moi, j'en avais 12.
Comment ?
J'en avais 12, crois-moi.
Non ! Alors, on est toujours contre l'autocensure ? Comme partout, Yuval avait juste un coup d'avance, Stéphane.
Merci beaucoup, Mathieu.